Mes amis, il y a quelques semaines, j'avais écrit une lettre personnelle au prieur des quelques 120 carmels de France. Je leur disais notamment, je sollicite la prière de votre communauté pour une initiative qui ne peut pas ne pas réjouir des carmélites. 5 soirées sur l'oraison vont avoir lieu à Paris. Et depuis, presque chaque jour, je reçois des lettres chaleureuses, fraternelles, qui m'assurent que les quelques 2000 carmélites de France, une assemblée plus large que la nôtre encore, nous sont spirituellement présentes le mercredi de 21h à 22h. C'est une bonne nouvelle dont je suis heureux de vous faire part. J'espère que vous avez tous été fidèles au rendez-vous de Dieu au cours de cette semaine, en dépit des difficultés qui n'ont pas pu ne pas surgir, bien sûr, et que vous y avez puisé force et joie. Aujourd'hui, nous allons aller plus avant sur la voie de l'oraison. Le titre de cet entretien, « Le Christ prie en moi ». Prier n'est pas le monopole des chrétiens. Nous avons tous vu, du moins en image, des hindous au lever du soleil, debout dans les eaux du Gange ou sur les rives, longuement immobile, les yeux clos, comme éclairés du dedans. Des bouddhistes assis en lotus, tout transparent à une paix et à une lumière intérieure. Des juifs priant au mur des lamentations. Des bédouins en plein désert, adorant Allah, le front prosterné contre terre. Et j'abrège la liste. Tous les hommes prient, le chrétien comme les autres, mais sa prière n'est pas identique à celle des autres. Quel est le caractère distinctif de la prière chrétienne? Telle est la question à laquelle aujourd'hui je voudrais répondre. Enchaînons, voulez-vous, avec une image que nous avons longuement contemplée mercredi dernier. le Christ sur la montagne, la nuit, sous un ciel fourmillant d'étoiles. Il prie. Si nous avons compris la profondeur et la plénitude de cette prière du Fils de Dieu fait homme, nous sommes peut-être tentés de penser sa prière n'a-t-elle pas rendu vaines les prières des hommes ? Que peut-on ajouter à cette prière que Jésus adresse au Père au nom de toute l'humanité ? N'a-t-elle pas définitivement supplanté nos prières misérables ? Ne s'agirait-il pas purement et simplement de s'en remettre à cette prière du Christ quand on va à Dieu ? La réponse à cette question, à cette objection, je la trouve dans le cœur même du Christ redescendant de la montagne au petit matin. Pour adorer, louer, glorifier ce Père devant qui il éprouve un émerveillement et un amour éperdu, pour intercéder au nom de cette humanité en détresse, ce troupeau sans pasteur, comme il disait. Il ne lui suffit pas de cette seule nature humaine qu'il a reçue de la Vierge Marie. Il lui faut des millions de cœurs. Il veut que sa prière retentisse partout dans l'univers, de l'extrême-orient à l'extrême-occident. Qu'elle s'élève du sein des grandes cités populeuses, comme du désert. En un mot, il veut que sa prière soit implantée, enracinée, inviscérée dans les cœurs de ses disciples tout au long des âges. Et pour cela, que ses disciples accueillent en eux cette prière, qu'ils s'ouvrent à la présence en eux de cette prière. Je veux traduire ma pensée par une image. J'ai célébré la dernière nuit pascale en la maison de prière de Troussure, avec des hommes et des femmes qui étaient rassemblés pour une semaine de prière. Au dehors de la maison, un peu avant minuit, un grand feu de bois flambait. Après la bénédiction du feu par le prêtre, le cierge pascal fut allumé à cette flamme. Et, processionnellement, il est entré dans la maison porté par le prêtre, qui s'est arrêté dans le grand hall, obscur. Tous ceux qui étaient au dehors sont entrés à leur tour, chacun portant un petit cierge non allumé. Et en quelques instants, le hall, où ne brillait que la flamme du cierge pascal, est devenu embrasé de lumière, chacun des petits cierges s'étant allumé à la flamme du cierge pascal. Ainsi, le Christ veut que sa prière, comme la flamme du cierge pascal, allume des millions de cœurs à travers le monde au cours des âges. Vous êtes en droit de me demander si c'est un enseignement personnel que je vous livre là, ou un enseignement qui ressort des Écritures et de la théologie. Eh bien, ouvrons les épîtres de saint Paul. Que de fois nous lisons équivalemment cette affirmation « Le Christ habite le cœur du chrétien ». Je lis dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 17. Le Christ habite en nos cœurs par la foi. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, ne reconnaissez-vous pas que le Christ est en vous ? Dans l'épître aux Romains, chapitre 6, verset 5, c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus. Et enfin, dans l'épître aux Galates, chapitre 2, verset 19, le texte le plus explicite, saint Paul dit je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et dans les écrits johanniques, on lit souvent cette parole du Christ, « Vous en moi et moi en vous ». Nous avons donc une solide base scripturaire. Et voici maintenant une poignée de citations de théologiens et de maîtres spirituels qui ont trouvé des formules heureuses pour traduire cet enseignement de l'Écriture. Tertullien, le chrétien est un autre Christ. Saint Augustin, réjouissons-nous, nous ne sommes pas simplement devenus chrétiens, nous sommes devenus le Christ. Monsieur Ollier, un prêtre du XVIIe siècle, il n'y a rien de plus grand qu'un chrétien, c'est un Jésus-Christ vivant sur la terre. Sœur Élisabeth de la Trinité, une carmélite du début du siècle, le chrétien est à Jésus-Christ une humanité de surcroît. Voilà bien des citations pour étayer mon affirmation, le Christ vit au cœur du chrétien. Vous me direz peut-être, mais tous ces auteurs parlent de la présence de Jésus-Christ dans le chrétien, non pas de sa prière. La réponse est facile. Là où vit le Christ, là il prie. Pour lui, vivre, c'est prier. Vivant dans le chrétien, il prie dans le chrétien. Aussi bien la phrase de saint Paul aux Galates que je vous ai déjà citée, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », peut être modifiée ainsi sans être trahi. « Je prie, mais ce n'est plus moi qui prie, c'est le Christ qui prie en moi. » Ainsi donc, à l'heure de l'oraison, et c'est une pensée exaltante, en moi palpite la prière de Jésus-Christ. Mais il faut préciser, il ne prie pas en moi sans moi. Pour que brille la flamme d'une lampe à huile, il faut que l'huile livre sa substance à la flamme. Ainsi dois-je faire. Arrêtons-nous donc quelques instants pour réfléchir à ce que la prière du Christ en moi attend de moi. Cette prière du Christ, pour employer une nouvelle comparaison, est en moi une semence dans les broussailles. Ces broussailles, ce sont mes passions, mes rêves, mes ambitions, mes soucis. Elle risque fort d'étouffer la petite semence. Le premier concours qu'il me faut apporter à la prière du Christ en moi sera donc une activité de débroussaillage. Débroussaillage impossible à l'heure de l'oraison si tout au cours de la vie je ne m'y applique pas. Deuxième concours. Il consiste à entretenir et à nourrir la prière du Christ en moi. Il faut en effet, pour que se développent les semences en terre, des sels minéraux, la pluie, le soleil, la gelée, il me faut, pour intensifier la prière du Christ en moi, qu'elle s'alimente à la parole de Dieu, au sacrement, aux sources multiples dont abonde l'Église. Troisième concours, il s'agit de céder la place à cette prière du Christ. Le Christ reprend à son compte et m'adresse l'admirable petite phrase que nous lisons dans le livre des Proverbes. Mon enfant, prête-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton intelligence, ton corps, tout ton être. Tout ce qui en toi est susceptible de devenir prière pour que je l'assimile à ma prière. Il faut lui céder la place. Quatrième concours. Mon intelligence, à l'heure de l'oraison, s'efforcera de saisir, de pressentir les grandes composantes de la prière du Christ en moi, afin que je m'y associe. Et voilà bien un sujet privilégié de méditation et de réflexion à l'heure de la prière. Cinquième concours, enfin, sur lequel je désire attirer très spécialement votre attention. Au cours de l'oraison, il me faudra adhérer de toute ma volonté, de tout mon cœur, à cette prière du Christ en moi. Vous vous souvenez de l'importance du « je veux » dans la prière dont je vous entretenais mercredi dernier. « Je veux, Seigneur, adhérer à ta prière en moi. » Sans doute, je ne l'aperçois pas, mais j'y crois. En effet, ce n'est pas de sentir qui importe, mais de croire. Je dis qu'il ne s'agit pas de sentir. Mais un jour doit venir où la prière du Christ, s'étant intensifiée, elle nous devient perceptible. Comme l'épouse du Cantique des Cantiques, je peux dire alors, je dors, mais mon cœur veille, je travaille, je marche, je joue, mais mon cœur veille. Mais palpite en moi la prière du Christ? Ce sera d'abord par intermittence que je ferai cette joyeuse découverte, et puis, probablement, un jour cela deviendra-t-il habituel? Car, c'est certain, Dieu le veut pour chacun de nous, cette prise de conscience de la prière du Christ en lui. Il faut bien sûr que celui qui veut parvenir à ce terme très enviable s'engage courageusement à la suite du Christ. Et je conclue cet entretien. Vous le voyez, au terme de ce que je viens de vous dire, l'essentiel de la prière chrétienne consiste non pas tellement, à l'heure de l'oraison, à fabriquer une prière, mais à rejoindre en soi une prière qui s'y trouve. Retenez ces deux mots, non pas fabriquer, mais rejoindre. Une ermite, dernièrement, qui m'écoutait faire cette conférence, corrigeait la phrase que vous venez d'entendre par celle-ci. Il s'agit de laisser monter en soi une prière qui nous habite. La prière chrétienne n'est donc pas d'abord œuvre de l'homme, mais œuvre du Christ. Prière du Christ en l'homme. Et c'est en cela que consiste la spécificité de la prière chrétienne. Je pense d'ailleurs que les prières des non-chrétiens, quand elles sont authentiques, participent elles aussi, à leur insu, à la prière du Christ. Eh bien, le moment est venu de vivre ce que nous venons de dire. Mercredi dernier, le recueillement a été de bien meilleure qualité que la première fois. J'espère qu'il sera meilleur encore aujourd'hui. Comme il en était parmi vous qui n'étaient pas aux réunions précédentes, je donne à nouveau les recommandations que la plupart d'entre vous connaissent, que ceux qui prenaient des notes déposent stylet, stylo et carnet à côté d'eux, que ceux qui ont branché leur magnétophone l'arrêtent pour qu'on n'entende pas le clic-clac en cours d'oraison. Et je vous propose de vous asseoir le buste bien droit, la tête droite, les mains sur les genoux. Adoptez une attitude très stable, décontractée. Fermons les yeux. Laissons la détente nous gagner tout entier. Pas de muscles crispés, pas de tension mentale. Respirons calmement. Veillez à un parfait silence pendant ces 10 minutes. Évitez tout bruit. Quand quelqu'un tousse, 1500 personnes sont dérangées. Si vous ne pouvez réprimer une toux, étouffez-la avec votre mouchoir. Un progrès est possible encore, cette fois. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, apprends-moi à te rejoindre dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi entendre ta voix dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, garde-moi auprès de toi dans le fond de mon cœur. Lors de notre première réunion, je vous disais, aller à l'oraison, c'est aller à la rencontre de Jésus-Christ. Et je précisais, le lieu privilégié de cette rencontre, c'est l'Évangile. Encore faut-il apprendre à découvrir le Christ vivant dans l'Évangile. C'est pourquoi je voudrais, aujourd'hui, maintenant, lire avec vous une page d'Évangile et essayer d'en déceler toutes les richesses. En Saint Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11. Dès l'aurore, Jésus parut à nouveau dans le temple et tout le peuple venait à lui. Il s'assit donc et se mit à les enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent alors une femme surprise en flagrant délit d'adultère et, la plaçant bien en vue, ils disent à Jésus, « Maître, Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse nous a prescrit dans la loi de lapider ces femmes-là. Et toi, t'en dis-tu ? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme ils insistaient, il se redressa et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et se baissant à nouveau, il se remit à écrire sur le sol. À ces mots, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et Jésus resta seul avec la femme qui était toujours là. Alors, se redressant, il lui dit : Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ? Personne, Seigneur, répondit-elle. Moi non plus, lui dit Jésus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. La première chose à faire en présence d'un texte d'évangile est de le situer dans son contexte. Et voici comment se situe la page que je viens de vous lire. La situation est tendue. Les pharisiens veulent la mort du Christ. Ils se demandent comment se saisir de lui sans déclencher l'hostilité des foules dont Jésus a fait la conquête. Il se trouve que Jésus est à Jérusalem depuis quelques jours, venu en pèlerinage pour la grande fête des tentes. Cette fête qui commémore les jours inoubliables où le Seigneur avait arraché d'Égypte son peuple captif pour le conduire en terre promise, l'accompagnant d'étape en étape. Les pharisiens sont à l'affût d'un événement leur permettant d'accuser Jésus-Christ. C'est le petit matin, Jésus descend le sentier du mont des Oliviers. Il entre dans la ville, les ménagères ouvrent les fenêtres de leurs maisons, les travailleurs partent au travail, et Jésus se dirige vers le temple. On le reconnaît, on le suit. Entré dans le temple, il s'assied familièrement par terre ou sur un tabouret bas, dans un des parvis. Autour de lui, en demi-cercle, de petites gens accourus avant de commencer leur journée laborieuse. Mêlons-nous à eux. Ne restons pas à distance quand nous lisons une page d'évangile. Regardons, écoutons. Essayons d'entrer dans l'intime des protagonistes de la scène à partir de ce qui nous apparaît visible et sensible. C'est ce que nous allons faire. Ces gens qui entourent Jésus sont attentifs, affectueusement attentifs aux paroles de Jésus, et lui est visiblement détendu, heureux devant cet auditoire de gens simples et qui lui font confiance. Tout d'un coup, toutes les têtes se retournent. Une femme échevelée se débat au sein d'un groupe de pharisiens qui la maîtrisent et la poussent. Le cercle des auditeurs s'ouvre pour laisser passage à contre-cœur aux pharisiens. La femme est littéralement jetée aux pieds de Jésus. Regardons-la. On dirait une pauvre bête traquée. On devine en elle, à son attitude, une révolte concentrée, la haine envers ses accusateurs. Elle ne regarde même pas Jésus. Elle s'imagine qu'il est l'un des leurs. Elle n'attend rien de bon de cette rencontre. promenons un regard circulaire sur l'auditoire que Jésus enseignait avant l'arrivée des pharisiens. Les visages ont changé. On y lisait la confiance, l'accueil, l'affection. Les visages se sont durcis. On y lit des sentiments d'animosité envers les pharisiens, de crainte pour Jésus menacé, d'apitoiement pour cette pauvre femme. Tout autre sont l'allure et les visages des pharisiens. Assurance, dureté, hypocrite courtoisie envers Jésus. L'un d'eux se détache du groupe et pose la question piège. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a prescrit dans la loi de lapider ces femmes-là. Toi, que dis-tu ?» Quelle que soit sa réponse, Jésus ne s'en tirera pas. Il est comme un homme dans une maison n'ayant que deux issues. Et les deux issues sont gardées. S'il répond « Laissez cette femme aller », ce sera l'indignation. Ainsi, tu fais bon marché de la loi de Moïse ? Et on l'inculpera. S'il répond, elle mérite cette condamnation, alors le peuple perdra sa confiance en lui, ce que les pharisiens souhaitent. Le peuple ne reconnaîtra plus sa bonté, car il y a longtemps que la loi n'est plus appliquée. Femme haletante, jette peut-être un regard à la dérobée sur Jésus-Christ, attend angoissée la réponse dont son sort dépend. Jésus s'est baissé, de son doigt il écrit sur le sol. C'est le geste de celui qui se désintéresse de ce qui s'y passe, qui est excédé. Les pharisiens s'imaginent qu'il est embarrassé. Le petit peuple ne sait pas bien interpréter son geste. Après quelques instants d'un silence pesant, plusieurs pharisiens à leur tour interpellent Jésus, gouailleur, insolent, savourant un triomphe imminent. Calmement, Jésus se redresse, les regarde sans colère, avec une infinie tristesse, et d'un ton neutre répond « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Puis, se penchant à nouveau, il écrit de son doigt sur le sol. L'hypocrisie des pharisiens lui donne la nausée. Et l'on voit les pharisiens, à commencer par les plus vieux, s'ils ne sont pas plus pécheurs, ils sont plus avisés, se retirer un à un, la rage au cœur. Je disais autrefois, employant une expression française, filer à l'anglaise. Mais je ne dis plus ça depuis le jour où, dans mon auditoire, il y avait un Anglais qui est venu me trouver après et qui m'a dit « En Angleterre, on dit filer à la française. » Revenons au petit peuple. Le petit peuple est rassuré. Il change de visage. Brille dans ses yeux, soulagement, ironie à l'égard des pharisiens qui se défilent, fierté envers Jésus, qui s'en est bien tiré, et dont ils se sentent solidaires. Pour ma part, je devine en Jésus, courbé sur le sol, une joie grandissante. Il a parlé quelque part du berger qui laisse le troupeau de son brebis pour aller chercher à travers rochers et ronces celle qui s'est égarée. Sa joie est grande quand il la retrouve. Il la prend sur ses épaules, lit-on dans la parabole. Sans doute s'était-elle cassée la patte. Peggy, à ce propos, a un mot admirable. La brebis elle-même tient chaud à son pasteur. La joie de Jésus, en présence de cette femme, est la joie du pasteur qui a retrouvé la brebis. Il semble bien, d'après l'évangile que je viens de vous lire, que les petites gens, eux aussi, se sont écartés. laissant Jésus seul à seul avec la femme, sans doute pense-t-il, ce qui va se passer ne nous regarde pas. Jésus est toujours penché en train d'écrire sur le sol. Ça ne m'étonnerait pas que la femme, alors, se soit hasardée à le regarder. Le visage de cette femme est transformé. On n'y lit plus révolte, haine, mépris, peur. La révolte dissipée a libéré en son cœur le repentir. Dans son regard brille une lueur de confiance. Jésus se redresse. Il n'y a plus devant lui que la femme seule. Et une fois de plus se manifeste l'extrême délicatesse avec laquelle il entre en rapport avec les êtres humains, très spécialement avec les pauvres et les pécheurs. Pour permettre à cette femme de se dégager de la honte qui l'accable, il lui demande « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamnée ?» La femme lève les yeux pour répondre au Christ. J'aime imaginer le bouleversant dialogue des regards de Jésus-Christ et de la femme qui se croisent. Et Jésus se contente de dire « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » Il condamne le péché, il absout la personne. On devine facilement la réaction de la femme. Elle a envie de s'élancer vers son défenseur et son sauveur et de lui embrasser les pieds comme tant d'autres pécheurs de l'Évangile. Elle n'ose pas, semble-t-il. Mais avant de se retirer, son dernier regard lui en dit long. Cette femme, en face de Jésus, mais c'est l'humanité en face de Dieu. C'est la misère face à la miséricorde. Que béni soit le Christ de nous avoir révélé que le Dieu d'immense majesté est aussi le Dieu d'infinie tendresse. Il resterait à se demander au terme de cette méditation, mais c'est l'affaire de chacun de nous. Qu'ai-je découvert en cette scène des pensées, des sentiments, des volontés du Christ? En quoi mes relations avec lui vont-elles être transformées? Voulez-vous, pendant quelques instants, laisser retentir en vous ce que nous venons de lire? Avant de repartir pour un entretien sur la pratique de l'oraison. Cet entretien se voudrait très pratique. Je m'arrêterai très spécialement à la façon dont il faut commencer l'oraison et dont il faut la terminer. Première question. Où prier? Dieu est partout présent, c'est sûr. Néanmoins, à l'heure de l'oraison, il est très souhaitable de choisir un lieu de calme et de silence. On peut se retirer dans une église, ou chez soi, dans une pièce, pardon, si petite soit-elle, consacrée à la prière. Mais bien peu nombreux, au moins en ville, ceux qui peuvent s'offrir un tel luxe. on peut du moins, tout simplement, avoir aménagé un coin de prière dans une pièce. Que ce coin demeure tel en permanence ou qu'il soit rapidement aménagé à l'heure de la prière. Il est souhaitable d'y disposer ce qui peut stimuler le recueillement et la prière. Par exemple, un choix de photos parlantes, un homme en prière, l'admirable visage du père de Foucault au soir de sa vie, l'intérieur d'un cloître, un enfant du Sahel dévoré par la faim, un simple paysage aux larges horizons. Pourquoi pas le crucifix, dont le curé d'Ars disait, en parlant de lui, le plus savant livre. Ou encore une icône devant laquelle on allumera une bougie ou une petite veilleuse à huile, selon la coutume de nos frères d'Orient. Certains disposent, comme le musulman, d'un tapis de prière pour créer un espace sacré. Éventuellement, un petit banc de prière, comme celui que je vous ai présenté l'autre jour, favorisant une attitude corporelle stable et éveillée. Il est très certain que pour presque tout le monde, le cadre importe beaucoup et favorise la prière. Après nous être demandé où prier, quand prier ? Il est très souhaitable de déterminer à l'avance, une fois pour toutes, ou à la rigueur chaque jour, si on a des journées très différentes les unes des autres, l'heure où nous ne risquons pas d'être dérangés, où l'environnement est aussi calme que possible, où notre esprit est éveillé et libre. Les heures de fatigue sont certainement moins favorables. Heureux ceux qui peuvent situer, tout au début de la journée, leur rencontre avec Dieu. Il ne faut pas dire trop vite, comme je l'entends parfois, à cette heure matinale, je ne suis pas parfaitement éveillé. Si on attend d'être parfaitement en forme, on risque fort de ne pas prier souvent. Quant à l'objection, on a besoin de sommeil, c'est sûr. Et pour ma part, je dis volontiers qu'il faut bien dormir si l'on veut bien prier. Mais pourquoi ne pas se coucher une demi-heure plus tôt ? J'ai constaté que tant de gens n'arrivent pas à se coucher et cependant ne font rien de bon de la dernière heure de la journée. Conseil à ne jamais oublier, à l'heure fixée pour l'oraison, il faut commencer sans délai. Car à ce moment-là, une meute de démons se déchaîne pour nous retarder. On constate en effet que mille et une choses nous sollicitent comme par hasard. Achever une tâche, donner un coup de fil à un ami, décacheter le courrier qui vient d'arriver, déchirer la bande du journal, ou tout simplement pour lire les gros titres à la une. Il ne faut pas être dupe, il importe de refuser net, sinon on est perdu. Sans compter que cela manque d'élégance de faire attendre le Seigneur, c'est le moins qu'on en puisse dire. Autre conseil qui n'a l'air de rien, mais dont vous découvrirez l'intérêt à l'usage. Au cours de la journée, il faut désirer, espérer, attendre son rendez-vous avec Dieu. Troisième question. Quelle durée consacrée à l'oraison ? Un quart d'heure ? C'est trop et trop peu. L'expérience montre que, ou on l'abandonne très vite, ou l'on opte pour la demi-heure. Il faut en effet du temps pour se dégager de soi-même et de ses soucis. Pour que notre être profond entre en jeu. Dans les débuts, on est tenté d'abréger le temps fixé, surtout si l'on a le sentiment qu'on perd son temps et que l'on serait plus utile ailleurs. Il ne faut pas céder L'homme qui pratique l'héliothérapie est parfois tenté de se dire lui aussi « Qu'est-ce que cela peut bien faire à mes os que je m'expose immobile au soleil ? Je capterai aussi bien le soleil en vaquant à mes occupations. » Mais il sait bien que c'est faux et il continue sa cure. Il faut faire de même, poursuivre notre raison. On a l'impression de ne rien faire. Il ne faut pas se fier à ses impressions. Les impressions, c'est une catastrophe pour celui qui y prête attention. Dieu, lui, le soleil du monde spirituel, fait en nous quelque chose d'essentiel et qui nous échappe. Durer devant Dieu, c'est capital. Je le répète, car ce mot est essentiel, durer devant Dieu. Quatrième question. Faire appel à la participation du corps au début de l'oraison. Si le corps est tendu, crispé, il faut pratiquer la détente, nous en parlerons à une des prochaines rencontres. Si le corps, en revanche, est calme, détendu, non seulement il ne va pas faire d'obstruction, mais il est en mesure de prêter un concours actif à la prière. Et il ne faut pas manquer de faire appel à son concours, car s'il n'est pas avec nous, il sera contre nous. Pourquoi ne pas commencer par un signe de croix, très lent, chargé de sens? On peut aussi réciter une prière vocale avec lenteur, densité, à mi-voix. Il peut être bon aussi, pendant quelques instants, de s'incliner en signe d'adoration, ou encore de se prosterner à la manière du musulman, ou même de s'étendre de tout son long, le front contre terre, pour dire à Dieu notre dépendance et l'abandon de tout notre être à son amour. Le corps parle et Dieu comprend son langage. Cinquième question, ou cinquième remarque, à propos des motivations qui poussent à l'oraison. Ces motivations risquent d'être parfois ambiguës. Il faut apprendre à rectifier les unes, à cultiver les autres. Certains vont à l'oraison pour y expérimenter les dons sensibles du Seigneur, pour y trouver paix et repos à l'égard des travaux et des peines, ou encore pour obtenir des bienfaits psychophysiologiques dont on dit que l'oraison est la source. Certes, ces motivations ne sont pas mauvaises, mais celui qui accorde la première place à l'une ou l'autre de ces motivations ne saurait progresser vraiment dans la découverte de Dieu. Il faut être très vigilant. Facilement se glissent en nous ces motivations plus ou moins ambiguës, même quand on a une grande expérience de la prière. Le seul vrai motif de faire oraison est celui-ci. Dieu m'appelle, Dieu m'attend, Dieu m'aime, il a beaucoup à me dire et à me donner, je viens. C'est essentiellement pour lui et non pas pour moi que je vais à l'oraison. L'amour n'est vrai, vous le savez bien, que si d'abord on cherche le bien de l'être aimé. Dieu a une œuvre à réaliser en moi, par moi, à l'heure de l'oraison, je m'offre. Après avoir traité des différentes conditions de lieu, de temps, de durée, de participation du corps, après avoir parlé des motivations, abordons ce qui est plus essentiel, la question des dispositions intérieures avec lesquelles il faut entrer en rapport avec Dieu au début de l'oraison. Tout d'abord, confessons que celui dont nous nous approchons est Dieu, le seul Dieu, le Dieu d'infinie majesté, à qui l'univers doit l'existence et sa permanence dans l'existence. Cette attitude, c'est l'adoration. Et sans adoration, pas de prière, c'est évident. Il faut d'abord être en face de Dieu pour prier Dieu et le reconnaître pour ce qu'il est. Si c'est au Christ que nous nous adressons, alors ne commettons pas l'erreur de l'apôtre Philippe qui s'est attiré une réprimande de Jésus. Comment, Philippe, depuis si longtemps que tu vis avec moi, tu ne sais donc pas que celui qui me voit voit aussi Dieu, mon Père? Sachons voir et adorer Dieu en Jésus-Christ quand nous abordons Jésus-Christ au début de notre prière. Mais il est vrai, ce Dieu adorable est aussi mon Père, le Père d'infinie tendresse. Aussi bien, dès ce début de l'oraison, l'adoration se combine avec une confiance filiale sans réserve. Mais que cette adoration et cette confiance ne restent pas au stade d'une pensée floue, d'une rêverie. Il faut qu'elles se traduisent en une relation de personne à personne. Ce que j'ai appelé, vous vous souvenez l'autre jour, la relation je-tu. Que ce soit une relation vivante qui se noue avec Dieu. Une relation qui fasse communiquer les deux partenaires. Et à ce Dieu, mon Père, je dirais que je veux être à sa disposition tout au long de mon oraison. Adoration, amour filial, relation je-tu, disponibilité, voilà ce que j'appelais les dispositions intérieures fondamentales. J'ai achevé avec cela ce que j'avais à vous dire sur les débuts de l'oraison. Je ne vous parlerai pas du corps de l'oraison puisque je vous en ai entretenu la fois dernière, mais il me faut vous faire quelques remarques sur la fin de l'oraison. C'est sans doute la partie la plus négligée. Il ne m'est jamais arrivé qu'un visiteur, s'entretenant avec moi, se lève tout à coup et sans rien me dire, sans me regarder, ouvre la porte et s'en aille, me laissant tout pantois avec une piètre idée de sa civilité. Eh bien, je le confesse avec confusion, ça m'est arrivé bien des fois de quitter l'entretien avec Dieu qu'est l'oraison de cette manière désinvolte. Et je pense que je ne suis pas le seul. Alors, réfléchissons à ce que doit être cette fin de l'oraison. Eh bien, d'abord, simple politesse, que l'on remercie le Seigneur de nous avoir accueillis et sans aucun doute, même si je n'ai rien perçu, de m'avoir accordé abondamment ses dons. Remerciements. Si je constate que j'ai divagué plus ou moins, je lui demanderai pardon de cette négligence, si tant est que j'en sois responsable. Il est des heures où c'est bien difficile de maîtriser ces divagations. Mais jamais je ne céderai à la tentation de juger mon oraison, de la déclarer mauvaise parce que j'ai été distrait ou sommeillant. Et surtout, je ne me laisserai jamais aller au dépit. Car, nous l'avons assez dit, la valeur de ma prière ne dépend pas de ma seule activité. J'ai la certitude, en effet, que Dieu, pendant tout le cours de mon oraison, a agi en moi, que le Christ a prié en moi, à une condition toutefois, que j'ai pris un bon départ, que j'ai réglé le fameux pilote automatique dont je vous entretenais la fois dernière. Autrement dit, que j'ai, dès le début de l'oraison, orienté mon cœur vers Dieu par un acte précis de volonté. Mais si j'ai fait cela, cette orientation demeure, quels que soient les incidents de parcours, du moment que je ne la rétracte pas. Et le Christ peut prier en moi. Et pourquoi ne pas terminer l'oraison par un geste, un signe de croix, un prosternement, ou par une prière vocale? Le pater est tout indiqué, mais un pater récité avec grande attention et à mi-voix. Et maintenant, comme les fois précédentes, nous allons entendre un témoignage. J'appelle celle qui doit le rendre. Ceux qui, parmi vous, se sont intéressés au théâtre et au cinéma entre 1930 et 1960 ont bien souvent vu et admiré Annabella Power. Conquise par le Seigneur, il y a déjà bien des années, Annabella répugne à parler de cet événement trop intime. Mais elle a toutefois gentiment consenti de nous dire comment sa vie est devenue une oraison continuelle. Je lui cède la parole.
Je suis née dans une famille très unie et pleine de tendresse, mais où on ne parlait jamais de Dieu. Pour papa, que j'adorais, sa religion c'était la France, la République, le journal qu'il dirigeait et le scoutisme qu'il avait introduit en France. Maman, douce et silencieuse, quand j'avais 6 ou 7 ans, m'a appris un peu à cachette le Notre Père et Je vous salue Marie. C'est grâce à elle et à ma chère petite grand-mère que j'ai fait ma première communion, avec un minimum d'instruction religieuse. Et pourtant, j'en ai eu un souvenir merveilleux dont j'ai vécu pendant des années. Et même aujourd'hui, j'aime y penser. J'ai commencé à travailler très jeune, dans un milieu très intéressant, le théâtre, le cinéma, mais pas du tout chrétien. Pour les extérieurs de films, je voyageais beaucoup. Et chaque fois que j'étais seule, j'entrais dans une église, je disais mes deux prières et j'allumais un cierge parce qu'il me semblait que cette petite lumière qui montait vers le ciel priait beaucoup mieux que je ne savais le faire moi-même. Et puis, ça a été l'Amérique. New York, Broadway, Hollywood. Un conte de fées pour la petite Parisienne que j'étais. Après, j'ai compris que Hollywood, c'est un peu comme une fleur merveilleuse et irrésistible, mais qui n'avait pas de racines. Pourtant, j'ai été aussi heureuse qu'on peut l'être d'un bonheur humain. Mais ce qui est difficile quand on est très heureux, c'est qu'on voudrait dire merci mon Dieu, et ce Dieu, je le connaissais si mal. Alors, je me disais, je suis divorcée, remariée, actrice, Dieu ne m'aime pas, c'est normal. J'acceptais. Nous allions à la messe, mon mari et moi, dans une petite chapelle dans le quartier mexicain parce que il avait moins de chances d'être reconnu et ennuyé. Sûrement les prêtres étaient très bien, mais ils avaient des accents terribles, ou mexicains ou irlandais, et je ne savais toujours rien, ni de mon église, ni de mon Dieu. Et puis, ça a été la guerre. Deuil, mort, séparation, tristesse. Une longue période grise. Jusqu'à un soir où une phrase qui ne m'était pas destinée est tombée sur moi et a changé ma vie. Quelqu'un disait à quelqu'un d'autre, Dieu vous aime, Dieu vous attend, tel que vous êtes. Il est là, vous n'avez qu'à ouvrir la porte, vous n'avez qu'à dire oui. Ça m'a paru un miracle. Je pensais que Dieu voulait bien de moi tel que j'étais, avec mes fautes, mes péchés, mes bêtises, mes oublis, mais il m'aimait. Alors, naturellement, ce Dieu d'amour et de miséricorde, je voulais le connaître. Je voulais apprendre à l'aimer comme il voulait être aimé. Et ça a été une suite de confessions, conférences, lectures. J'allais à Châteauneuf-de-Galorde, une maison de charité, et puis chez les petites sœurs de Bethléem, et puis en Terre Sainte, Jérusalem. Et un jour, après une conférence au monastère du Bec et Loin, quelqu'un a parlé de troussure, de l'oraison. En plus de toutes les joies que j'ai trouvées à troussure, dans ce merveilleux silence qui est déjà comme une prière, il y a cette petite phrase que le Père vous a citée tout à l'heure et qui me bouleverse chaque fois que je dis « Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais que je te rencontre dans le fond de mon cœur. » Cette petite phrase, on peut la dire des centaines de fois. Si on le sait, si on le croit, si on le veut, l'impossible devient réalité, il est là. Alors, pour moi, l'oraison, c'est un rendez-vous d'amour. Ça n'est plus une poursuite ou une recherche. C'est une certitude, une présence. On peut faire oraison, naturellement, dans sa chambre, la porte close, mais aussi dans une église sombre, silencieuse, et quelquefois dans la campagne en se promenant, ou sous un ciel plein d'étoiles, ou même dans le train, en voiture, ou au milieu d'inconnus qui ne savent pas qu'on prie aussi pour eux. Ce que j'aime dire et redire, c'est « Mon Dieu, faites-moi connaître votre volonté. Faites que je l'aime. » Ou même une prière encore plus courte. « Merci Seigneur, merci pour tout. »
Avant de nous séparer, nous allons réciter une de nos prières familières. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est une grande fête de la Vierge, la présentation. Je propose de réciter un « Je vous salue Marie ». Frères protestants qui êtes dans cette assemblée, je sais que sans doute vous ne pourrez pas le réciter avec nous, mais du moins, voulez-vous, soyons unis dans une même admiration envers cette jeune Nazaréenne qui, ayant dit oui à Dieu, a donné au monde le Fils de Dieu. Récitons cette prière debout, dans une belle attitude de prière. Lentement, à mi-voix, très attentif à chacun des mots, je vous demande de ne pas me précéder. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez, dans la paix du Christ.